Nous sommes en direct par téléphone avec Nathalie Quintane pour parler de Crâne Chaud qui vient de paraître aux éditions POL. Merci beaucoup d'être avec nous en direct par téléphone, Nathalie Quintane.
Bonjour.
Alors, juste avant, j'avais lu les deux premières pages de Crâne Chaud. J'ai relu le début de votre livre, après l'avoir terminé, bien entendu, et je ne me souvenais pas de ce début, naturellement. Et en relisant après ce début, j'y trouve tous les éléments d'un programme pour Crâne Chaud. Ma première question, c'est qu'est-ce qu'il y a au préalable de Crâne Chaud? Que voulez-vous tester dans ce livre?
Alors d'abord, le début a été écrit à la fin. C'est donc un programme rétrospectif. Le livre était terminé et d'après ce qui avait été déjà écrit, j'ai refait le début ou j'ai ajouté le début, ce qui explique le côté programmatique a posteriori des deux premières pages que vous avez lues. Et alors, ce qu'il y avait avant Crâne Chaud, j'espère que ça se sent ou qu'il y en a des traces suffisantes pour que les lecteurs puissent les suivre, hein, les traces, à la trace. Parce que il y a de manière assez claire, je crois, en tout cas, j'espère, j'ai travaillé sur des textes préexistants, en partie, que je jugeais souvent d'ailleurs plutôt ratés, on peut le dire comme ça. Et j'ai retravaillé sur ces textes en les réécrivant ou en les copiant tels quels ou en les agençant autrement. Et le livre est fait en grande partie de ces versions préalables avec un fil qui est venu après, qui est le Brigitte Lahaye, en tout cas en l'occurrence la position que Brigitte Lahaye a dans son émission de radio en tant qu'animatrice de radio et en tant qu'elle s'adresse à ses auditeurs, quoi. Voilà.
Et alors ce lien qu'on voit surtout à la fin avec Brigitte Lahaye, parce que Brigitte Lahaye apparaît surtout à la fin de Crâne Chaud, c'est là où elle est vraiment beaucoup plus présente. Est-ce que vous vouliez reproduire dans la forme de Crâne Chaud sa position dans son émission, c'est-à-dire que vous auriez convoqué vos textes préexistants, vos versions préalables, comme s'ils agissaient en tant que personne qui appelait Brigitte Lahaye et pour en gros avoir des réponses à leurs questionnements. Est-ce que ça agit un petit peu comme ça dans la forme de Crâne Chaud?
Alors j'y avais pas pensé exactement de cette manière-là, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une sorte de modèle, presque au sens modèle idéal du terme, la manière dont elle s'adresse à ses auditeurs. Elle a une façon de conseiller ou d'être simplement à l'écoute, qui évite deux grands écueils, la complaisance et la leçon. Et c'était ça que j'avais en tête en écrivant le livre, c'était d'éviter et la complaisance et la position surplombante, on va dire. Et c'était d'être en effet le jeu du texte, qui n'est pas vraiment moi, mais bon, évidemment, en partie toujours, qui est un peu plus général que ce que je peux l'être, enfin j'espère, il est parmi les, en ce sens vous avez raison, il est parmi les auditeurs, il est avec les auditeurs, qui eux-mêmes représentent, on va dire, une bonne partie de la société française, ou qui est une espèce comme ça, qui joue un peu comme ça le rôle du démos, quoi, du peuple, avec mille guillemets, hein, bon.
Oui, parce que dans ces deux premières pages, donc, que vous avez réécrites a posteriori, il y a quand même, je vous cite, écrit « C'est du lourd, ça sent le vécu, la tranche ». C'est-à-dire que ça serait comme un peu les morceaux de texte que nous trouvons dans Crâne Chaud. C'est du vécu, pas forcément par vous, ça peut être du vécu par d'autres jeux, par d'autres narrateurs, mais on est dans des tranches de vie comme ça, et comme vous le dites, qui ne se laisse pas juger par de la complaisance ou par de la leçon.
Oui, je crois que j'essaye, dans ce passage, j'essaye quand même de laisser le choix au lecteur, puisque il a entre autres, enfin, le choix entre considérer que c'est pour de vrai, c'est pas pour du beurre, il peut le prendre comme ça, mais il peut aussi le prendre comme quelque chose qui a trait à une recherche plus poétique, plus expérimentale. Ça peut être les deux, puis ça peut être évidemment d'autres choses, j'espère. Mais c'est un texte qui peut être lu comme oui, un vrai texte biographique, autobiographique, et comme et indissociablement, évidemment, comme une recherche poétique de ce que c'est que le sentiment sexuel aujourd'hui, quoi.
Et justement, en lisant Crunchaud, Nathalie Quintane, j'ai ressenti une grande liberté dans le texte. Ce que vous dites, on navigue entre texte autobiographique et puis une sorte de une grande recherche, et on y reviendra sur le sentiment sexuel. Mais en lisant Crunchaud, j'ai ressenti une grande liberté dans le texte, une grande liberté que vous vous êtes adjugé. C'est-à-dire que vous vous êtes arrivé à ce degré limite de la liberté où tout est possible dans le texte. En lisant le texte, je me suis dit, mais tout le futur du texte est possible. Est-ce que c'était votre contrainte principale ?
Oui, c'est vrai que chaque fois qu'on me dit ça, je suis plutôt contente. Mais ce type de liberté auquel vous faites allusion, c'est le même type de liberté qu'on peut avoir en écoutant la radio et en prenant note de ce qui arrive par la radio si, par exemple, on navigue sur la bande FM ou sur d'autres ondes, les ondes courtes, etc. Et en tout cas, j'avais dans l'idée que ça pouvait être ça, que le type de recherche dans ce livre-là, mais aussi dans le précédent qui s'appelait Tomate, c'était ça, c'était une idée de d'être disponible à ce qui arrive dans un cadre qui est quand même assez contraint, qui est un cadre de réflexion fantaisiste critique, comme j'ai essayé de définir une sorte de genre qui n'en est pas vraiment un. Donc il y a une contrainte presque de genre qui se fabrique par ces trois mots, quoi. Une fantaisie qui peut aller assez loin, hein. Ça peut être fantaisie jusqu'au sens allemand de fantasmagorie ou d'hallucination presque, puisqu'il y a quelques passages brefs dans le livre qui sont presque des passages hallucinatoires. Et aussi une part d'essai, évidemment, et de critique. Donc dans ce cadre-là, je voulais que ça arrive comme des voix de la radio qu'on n'a pas forcément choisies, prévues en amont, puisque le livre, il n'y a pas de plan dans ce livre, hein, y a des choses qui étaient déjà là, mais après ça s'est agencé au fur et à mesure sans plan préalable.
Oui, d'ailleurs, vous dites, page 62, entraîné par l'élan narratif qui me fait dire n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur, du coup, cette contrainte quand même que vous êtes fixée, cette contrainte de ce fantaisie, de cet aspect fantaisiste critique. Pouvez-vous un peu plus le définir ? Pouvez-vous y revenir un petit peu plus ?
Oui, ben j'ai en tête deux textes, et j'avais en tête deux textes puisque je les avais lus et relus plutôt d'ailleurs juste avant ou un peu avant, qui sont pour moi qui se définissent eux-mêmes. Enfin, l'un d'entre eux se définit comme une fantaisie réaliste. C'est un court texte en prose de Nerval qui s'appelle Les Nuits d'Octobre, qui est un récit autobiographique, en tout cas en partie, d'une errance dans la banlieue parisienne du milieu du 19e siècle. Jusqu'à Pantin et même Meaux, et ça passe comme ça par à la fois des allusions à la situation du champ littéraire de l'époque. Ensuite il tombe amoureux d'une femme sur une affiche qui est une femme étrange, semi-monstrueuse, avec une chevelure de mérinos. Enfin bon, il y a comme ça, hein, sur ce texte en prose assez court, les trois éléments déjà, l'autobiographie, la fantasmagorie, on va dire, et puis l'essai critique. Et c'était un peu ça que j'essayais ou que je voulais essayer depuis bon, sans doute plus anciennement que Tomate, mais Cabale, c'était déjà un peu ça, mais différemment. Et l'autre texte que j'avais en tête, puisque j'avais l'intention de parler d'amour quand même, c'était Une saison en enfer de Rimbaud, qui est exactement ça aussi, qui est un retour critique sur sa vie, sur son travail, et qui en même temps part comme ça assez loin. Donc en fait, j'avais des modèles très concrets, pas du tout théoriques purs ou choses comme ça, hein. J'avais des modèles concrets, et je voulais essayer de faire quelque chose comme ça, mais évidemment aujourd'hui pas une nouvelle saison en enfer, hein, autre chose.
Et avec ce grand thème, celui de la séduction, celui de l'amour, je vous lis page 51, j'ai lu quelqu'un dire « La grande littérature, elle parle d'amour et de mort, le reste, c'est peanuts, cacahuètes ». C'est un livre donc sur l'amour, sur la séduction sexuelle, mais on comprend que c'est une histoire d'amour qui se finit. Parce que c'est une histoire d'amour qui n'est pas plus du tout dans sa plénitude, c'est une histoire d'amour qui s'achève.
Oui, vous l'avez bien lu. Mais quand même, le livre est tellement bifurquant et aborde tellement d'autres choses dans le sentiment sexuel qu'il n'y a pas... C'est pas forcément le centre ou le cœur du texte, bien que. C'est un peu le cœur du texte, mais c'est un cœur souterrain quand même. C'est pas, vous l'avez bien lu, donc vous avez bien compris que c'était ça derrière. Mais ça n'est pas, je n'ai pas voulu cela trop apparent, ou je ne voulais pas que ce soit le sujet principal du livre.
Oui, mais qu'est-ce qui se passe quand même à un moment donné? On avance dans le livre, on est page 144, et là, je lis ces différentes phrases. Je m'attache encore tout bonnement à dire ce qui t'arrive quand tu tombes amoureux. Un peu plus loin, même s'il est hors de question que je t'assomme avec des histoires de touche pipi. Un peu plus loin, ce qu'il reste d'une passion, ce qui n'a aucune chance de disparaître, de quelque chose qui t'a littéralement pourri le cerveau. Page 146, ce qu'il en reste, eh bien, je m'en vais me le dire ici même, et ça commence comme ça. 6 ans, où presque tout ce que j'avais pu faire et dire, seul ou avec d'autres, avait été doublé par la pensée de cet homme. Si bien qu'à l'époque, le moindre détail était salopé par cette pensée. Puisque ce que j'avais dans le crâne, c'était cet homme, poursuivant mon chemin tête baissée, le nez dans cet homme, je conservais une impolitesse à l'égard du monde. C'est là d'où vient un crâne chaud, ce nez que vous avez, ce crâne que vous avez comme ça dans cet homme, c'est votre crâne chaud, c'est un crâne chaud.
Oui, ça parle, c'est vraiment une phrase évidemment déterminante, puisque ça parle de l'empêchement de penser quand même, hein, du fait que la passion... bloque toute réflexion, tout et même tout regard sur le monde. Ça va plus loin que simplement réfléchir, c'est simplement pouvoir regarder ce qu'il y a autour de soi, quoi. Et donc évidemment le ça parle de l'écriture, ça parle du fait que il faut bien, on est bien obligé de réunir des conditions de pensée pour pouvoir commencer ce type de travail, ou pouvoir commencer à vivre aussi, tout simplement. Donc, en effet, c'est un passage déterminant.
Et ce thème-là de l'amour, de la sexualité, enfin, même quand la personne, le narrateur, la narratrice, ou un des personnages, en tout cas, part en Palestine, c'est en accompagnant Jean en Palestine que je me suis aperçu qu'il ne traitait jamais de personnages, mais parler de personnes plus ou moins enduites de fiction. Et ben même là, en fait, en parlant des révolutions arabes, et vous parlez des révolutions arabes, même là, elles sont vues du point de vue du personnage français ou française et sous l'angle de la sexualité. Est-ce que Crenshaw est une machine sexuelle incontrôlée ou même quand vous parlez des révolutions arabes, c'est derrière ce prisme-là?
Oui. Tout a été capté. Comme je l'ai dit tout à l'heure sur la question de la liberté, tout a été capté, mais par ce filtre-là. Et le passage fait allusion au début du captif amoureux de Genet. Et ce qui m'a frappé quand je lisais ce livre, au moment où j'écrivais Crenshaw, c'est ce regard inversé qu'il portait sur les relations entre le palais et le peuple. Et moi, je me disais, ou j'avais l'impression, un peu comme tout le monde peut-être, que le peuple reluquait le palais, alors que ça pouvait être aussi bien l'inverse. Et cette inversion de perspective et de regard, c'était très intéressant puisque c'est un peu ça que aussi que j'essayais de faire.
Avec un usage des personnes, et c'est là aussi où c'est autobiographique, aussi où il y a de la fantaisie, on n'est pas que dans l'essai critique, il y a des personnes comme ce que je viens de lire. Je me suis aperçu qu'il ne traitait jamais de personnages, mais parlait de personnes plus ou moins enduites de fiction. On se demande toujours qui parle, qui se met à parler. Parfois, vous faites un usage personnel des personnes qui parlent.
Oui, mais ce qu'il y a derrière aussi cette question-là qui est importante, hein, que je continue à essayer de travailler dans le livre que je suis en train d'écrire, la question de la personne et du personnage, c'est la question du roman, quoi. Ce livre n'est pas un roman. Je ne suis pas romancière, contrairement à ce que j'entends de temps en temps. Et le personnage, il est plus qu'enduit de fiction, quoi. C'est une fiction. Et ce que j'essaye de faire dans ce livre-là, ou même avant dans Tomate, ou même dans les autres livres, c'est de m'en tenir à la personne. Sans, attention, sans, entendons-nous bien, sans exploiter ce que les gens, pour de vrai, peuvent vivre pour de vrai dans la vraie vie. C'est pas ça mon propos, hein. Je ne fais pas de l'autofiction échevelée, on va dire. C'est quelque chose d'autre, je crois. Mais je voulais essayer de m'en tenir le plus possible aux personnes. À la personne, par exemple, en parlant de Brigitte Lahaie, j'ai essayé vraiment de limiter au maximum les allusions à son passé d'actrice, qui était un peu trop porteuse de fiction, justement, puisqu'elle joue des personnages dans ses films, malgré tout. Et je crois qu'on peut en discuter, puisque c'est des films pornographiques, c'est encore une autre question. Mais je voulais m'en tenir vraiment à ce qu'elle était, à ce qu'elle incarnait comme position en tant qu'animatrice de radio, point. Sans essayer de gratter au-delà, voilà.
Oui, parce qu'on n'a pas encore parlé beaucoup de Brigitte Lahaie, de cette vraiment qui apparaît dans toute la fin du livre, cette manière dont non pas vous l'utilisez parce que ça serait grossier, mais dont vous en faites un personnage du livre, la manière dont elle apparaît. Là, il y a une construction de votre part, il y a une réflexion sur voilà pourquoi utiliser Brigitte Lahaie et qu'en faire de Brigitte Lahaie que tout le monde connaît.
J'essaie de m'accrocher, en tout cas sur certaines pages, c'est fait, je crois, à sa parole, à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, qui n'est ni complaisante ni surplombante, et je le fais de manière très littéraire scolaire, on va dire, hein, presque avec des passages d'explications de texte, d'échanges, de conversations entre elle et un auditeur. Et j'essaye de m'accrocher vraiment à ce qu'elle dit, de manière à ne pas à fournir des preuves aussi de ce que j'avance, c'est-à-dire de qu'elle n'est ni complaisante ni maîtresse d'école. Et les preuves que je suis en capacité de fournir, ben ce sont des sortes d'explications de textes, ben vraiment très littérales et les plus accrochées possibles à ce qui est dit.
Et j'imagine que vous l'avez écouté longuement à la radio, Brigitte Lahaie. En l'écoutant comme ça, vous êtes dit, voilà, quelqu'un qui va parler de ce sujet de la séduction amoureuse, de l'amour charnel, sans complaisance, ni leçon. Et là, vous vous dites, ça, c'est pour moi, ça se rapproche de ma manière de concevoir la fiction.
Ah ben c'est pas que ça se rapproche, c'est que j'aimerais bien. C'est un modèle, c'est-à-dire qu'au moment où je me dis ça, où je me dis ah là là, qu'est-ce que c'est bien la façon dont elle s'y prend, je me dis mais j'en suis pas encore là. Et c'est ce que le jeu du texte se dit également dans le livre, vers la fin, au dernier tiers, on va dire, c'est j'en suis pas encore là. C'est encore quelqu'un qui est une manière de parole qui est encore à l'horizon presque, hein, qui est en avant. Et le livre est fait pour essayer de concrètement de se rapprocher de ça. Mais c'est pas moi qui me dis tiens, elle fait comme moi. C'est je me dis j'aimerais bien faire comme elle. C'est un peu différent, quoi.
Eh bien, merci beaucoup, Nathalie Quintane.
Merci à
Merci
vous.
beaucoup de nous avoir parlé de Crunchyroll qui vient de paraître chez POL et qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies. Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.